Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour.
Le prince Philippe est mort hier à l'âge de 99 ans au château de Windsor. Comment est-ce que vous avez réagi ?
Paix à ses cendres. Pour le reste, je suis pas très monarchiste et les fastes de la monarchie anglaise m'ont toujours un peu dérangé. Après, bon, voilà.
C'est bien la monarchie, c'est stable, il y a une forme de stabilité dans le temps.
Oui, enfin, comme ça sert à rien, ça peut être stable. Mais je préfère la démocratie et la République. Mais je voudrais pas que mes paroles soient mal vécues à propos de quelqu'un qui vient de perdre la vie et qui avait des côtés plaisants et même attachants.
Emmanuel Macron...
Voilà, les monarques, c'est pas mon affaire.
Emmanuel Macron salue une vie exemplaire, définie par le courage, le sens du devoir, l'engagement pour la jeunesse, l'environnement. On va en parler avec vous.
Qui tâche d'en faire autant et d'aller jusqu'à 99 ans et on verra.
En attendant, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes en route pour la présidentielle de 2022. On va en parler dans un instant, mais d'abord, vous l'avez peut-être entendu dans le journal de 8h, la mosquée de Pantin a rouvert hier après une fermeture administrative demandée par Gérald Darmanin après l'assassinat du professeur Samuel Paty en octobre dernier. Nouvel imam, nouveau recteur. Est-ce que c'était nécessaire de faire le tri des imams?
Je suppose qu'il y avait des bonnes raisons de fermer la mosquée, puisque c'est la loi le permet, hein. Avant même la loi sur le séparatisme qui ne sert à rien dans ce domaine, il y avait cette possibilité pour les lieux de prêche. En particulier, ça a toujours été comme ça, hein. L'Église catholique n'a pas reconnu la République avant 1920, donc il y avait des lois déjà qui lui adressaient un message pour dire « vous faites comme vous voulez, mais pas trop loin ». Donc ça a toujours existé. Il y avait sans doute des raisons de la fermer, il y a sans doute des raisons de permettre qu'elle soit réouverte, et c'est normal parce que la liberté du culte est reconnue en France, dans la laïcité, mais nous ne savons rien, nous n'avons su ni pourquoi ils fermaient, ni pourquoi ils ouvraient.
Bon, on a su, c'était pour la publication sur Facebook.
C'est bien, je suis content, vous avez l'air d'être au courant, parce que nous, on est vaguement en responsabilité là-bas. Le député de la circonscription, Bastien Lachaud, député insoumis, n'a été informé ni de l'enquête pour la fermeture, ni pour
l'ouverture. Ça a été rendu public, c'était pour la publication sur Facebook des fameux cours du professeur Paty.
Très bien, mais écoutez, c'est pas mon avis, c'est l'autre, hein, d'accord ? Donc, dans ce pays, on méprise beaucoup les députés. Figurez-vous que le rôle d'un député n'est pas de lire le journal pour savoir ce que le préfet est en train de faire.
Est-ce que c'était nécessaire de faire le tri des imams ? Est-ce que, comme le veut la loi séparatisme, comme le veut Emmanuel Macron, il faut maintenant labelliser certains imams, il faut contrôler les financements étrangers ?
Ça, c'est un autre sujet. Sur lequel je voudrais vous mettre en garde. Attention aux idées simples. Alors, on va trier les imams. Bien sûr, sur quels critères ? S'ils appellent au meurtre ou à l'insurrection, je ne sais pas pourquoi ils le feraient, en tout cas, oui, ils doivent être punis, comme n'importe quel autre ministre du culte, ou n'importe quel homme politique, ou n'importe qui. Dans ce pays, ce n'est pas... La laïcité ne pourchasse pas la religion. Elle la rend possible et elle rend possible la liberté de conscience. Alors, une fois qu'on a posé ce principe sur lequel je crois tout le monde sera d'accord.
N'est pas d'accord là-dessus, mais vous l'affirmez ce matin.
Mais bien sûr que si, que tout le monde est d'accord. Et à commencer par les musulmans, qui ne sont pas d'accord pour que les prêches servent de tribune de propagande politique pour je ne sais quoi. Non, les croyants pensent que la foi se rapporte à autre chose qu'aux affaires publiques. Mais je veux aller sur l'essentiel. Je vous mets en garde. Alors aujourd'hui, vous direz « Ah, Mélenchon ne doit pas parler comme ça », mais vous verrez que j'aurai aussi raison sur ce sujet, comme j'ai eu raison sur le concordat en vous disant que c'était une aberration que ce concordat en Alsace. Je vous dis la chose suivante, si je suis contre la religion en politique, mais je suis contre la politique en religion, si on commence à dire ce qui est écoutable et ce qui n'est pas écoutable en matière de foi, on entre dans une logique qui conduit à la violence. Et d'ailleurs... Madame Schiappa a immédiatement fait la démonstration en disant « Ah ben voilà, les imams doivent dans leur prêche dire qu'il est possible de s'épouser personnes du même sexe. »
Et donc ?
Moi je suis pour cette liberté, mais on ne peut pas demander à une religion d'aller contre ses propres édits. Après tout, les imams disent ce qu'ils veulent et je ne vois pas pourquoi Madame Schiappa le demandait aux imams sans le demander aux rabbins ou aux prêtres, tout ça est absurde. Il n'y a pas une religion... qui admet le mariage homosexuel. Mais je vous donne cet exemple pour vous montrer qu'on n'en finira plus d'aller dans les lignes, dans les textes, je ne vais pas vous citer ici tous les passages de tous les textes religieux, que pour ma part je trouve insupportables. Mais la liberté de conscience et de la foi, ça suppose qu'on respecte ça.
Hier, Marine Le Pen est allée soutenir le candidat RN dans les Hauts-de-France, à Maubeuge, sur les terres du Nord, sur les terres ouvrières, sur les terres anciennement socialistes. C'était votre électorat. Comment est-ce que vous expliquez ce transfert du vote anticapitaliste vers le Front National, vers le Rassemblement National ?
D'abord, je conteste qu'il ait lieu. Ce qui est frappant dans l'électorat populaire et de masse,
oui.
c'est d'abord qu'il s'abstient. En masse. Et il y a toujours eu une partie de l'électorat ouvrier et populaire qui votait à droite, et c'est bien son droit. C'est lui qui s'est radicalisé.
Donc il y aura un vote ouvrier pour LFI et un vote ouvrier pour le Rassemblement National ?
C'est ce qui s'est déjà passé en 2017.
Mais les intentions de vote des 18-35 ans pour le Rassemblement National, ça vous inquiète ?
Mais écoutez, le Rassemblement National, c'est un parti politique que la classe politique, comme on dit d'habitude, a accepté. Il reçoit de l'argent de l'État tous les ans, c'est un parti du système. Quand Charlie Hebdo et moi, il y a 20 ans, on faisait campagne pour interdire les organisations d'extrême droite, on nous a dit « Ah mais non, pas de problème, il faut que nous sommes un pays démocratique, nous allons les vaincre par les urnes ». Donc je n'ai qu'une chose à dire, ceux qui ne veulent pas que Madame Le Pen préside ce pays n'ont qu'une chose à faire, ne pas voter pour elle, et voter par exemple pour moi.
Est-ce qu'il y a un rejet de Jean-Luc Mélenchon ? Votre cote de rejet est à 52% pour le baromètre Odoxa.
Eh bien,
est-ce qu'il y a un rejet de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui dans la vie politique ?
Vous venez de le dire vous-même, vous avez consulté votre boule de cristal, et elle dit que 52% des personnes me rejettent, ce qui veut dire que 48% ne le font pas.
Certainement.
Ça me semble être une bonne base pour moi. Je trouve normal, si vous voulez, il ne faut pas non plus caricaturer l'opinion des Français, y compris ceux qui ne sont pas favorables à ma candidature ou à mon programme. Ils ne sont pas d'accord, point. C'est mon devoir de démocrate, c'est de les convaincre. Donc vous voyez, j'ai du pain sur la planche. Mais si je pars à 48%, ma foi, je me sens assez fort.
Vous vous sentez fort tout seul ou vous vous sentez fort avec la gauche, puisqu'il y a une réunion de la gauche le 17 avril. Est-ce que vous allez y participer ?
On est partisans d'y aller. Hein. Il faut, chaque fois qu'il y a un lieu où on débat, on dialogue, on ira. Mais il faut que les choses ne soient pas, si vous voulez, ou des traquenards ou une instrumentalisation des gens. Pourquoi je dis ça ? Parce que, d'abord, c'était la première proposition de Jadot, qui correspondait à celle qu'on avait fait nous-mêmes, qui était de dire, bon, stop, halte au feu, passons à un pacte de non-agression, ça suffit de se taper entre nous, alors que M. Macron et l'extrême droite nous tapent aussi fort sur les soi-disant islamismes de gauche et toutes ces bêtises. Et, entre-temps, l'affaire a évolué, alors on a entendu un coup parler de législative, de présidentielle.
En tout cas, vous parlez de Jadot, l'écologie, vous arrivez maintenant avec le thème de l'eau, vous voulez rendre l'eau accessible à tout le monde.
Vous ne m'avez pas laissé terminer, avec votre permission, juste pour en un mot. Nous allons d'abord demander comme précaution préalable, nous voulons savoir de quoi on parle à cette réunion et nous proposons qu'on parle de faire un front commun pour défendre les libertés face à la dérive autoritaire du gouvernement. Deuxièmement, nous allons proposer qu'en effet on organise des débats publics sur le programme parce que ça motivera nos électeurs. J'en viens à l'eau et à l'écologie. Merci de me faire cette transition. Tout à l'heure, à 19h, je fais un meeting en réalité augmentée. Alors, ça veut dire...
Après les hologrammes, la réalité augmentée.
Oui, parce que...
Mélenchon 4.0.
Écoutez, parce qu'on ne peut pas, hélas, faire de meeting physique. Moi, j'ai besoin de ça.
C'est que pour ça, alors.
Ah, pour nous, c'est un handicap, hein, c'est sûr. Alors, je veux faire une campagne, si vous voulez, qui soit une campagne utile. Pas seulement une campagne de posture. Alors, qui est-ce qui est plus unitaire, moins unitaire ?
Mais pourquoi l'eau ? Pourquoi l'eau ?
Alors, j'y viens, voilà, parce que c'est le grand sujet des 10 prochaines années. Actuellement, on ne le sait pas. Les Français n'en ont pas conscience.
René Dumont nous avait alerté en 1974.
Exactement. Mais à l'époque, beaucoup avaient ricané, peut-être même faisais-je partie du lot. Et il a été absolument prophétique en disant, ça va devenir une denrée rare, et c'est du manque d'eau que vont venir des conflits sociaux, des conflits entre les nations, et une difficulté à vivre. Il faut donc arrêter de saccager la ressource. Mais nous, Français, comme nous savons très bien qu'il y a un cycle de l'eau qui est global, nous avons des responsabilités à tous les points de passage. Dans la mer Méditerranée, dans les océans où nous sommes le deuxième territoire du monde, dans les pôles. Bref, j'expliquerai tout ça, et je voudrais que les Français comprennent que je ne vais pas leur parler toute la campagne que de problèmes, mais aussi de solutions, et leur faire regarder le futur pour leur donner le goût du futur.
Merci. Un petit verre d'eau, Jean-Luc Mélenchon, pour terminer. Merci beaucoup.
Ça serait bien, mais pas dans un verre en plastique, parce que
c'est un autre problème, effectivement.
Et oui, c'est un problème de l'eau.
Merci Jean-Luc Mélenchon.
C'est moi qui vous remercie.